Vous savez que la situation économique, l'endettement des Américains fait beaucoup parler, et en Europe aussi, les problèmes à ce niveau-là sont très sérieux, même un peu alarmants. C'est d'ailleurs, je pense, la première question que je vais poser à notre invité, Monsieur Germain Belzile, qui est directeur de recherche à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Belzile, bon matin.
Bon matin.
Vous allez bien?
Très bien, oh oui, il fait beau aujourd'hui.
Mieux que l'économie mondiale?
Oui, mieux que l'économie mondiale, effectivement.
Je regardais le tableau, le taux d'endettement des pays en Europe, et je me posais la question, est-ce qu'on s'en va vers un gouffre financier mondial ou encore une récession économique mondiale? C'est assez alarmant quand on regarde tous ces chiffres-là.
Mais écoutez, c'est pas impossible. L'endettement des pays européens est extrêmement élevé, certains pays européens. Et puis ces pays-là, parce qu'ils sont pris dans la zone euro, ils peuvent pas stimuler leur économie. Et puis ils sont coincés en fait là. Ils sont en récession. Si on regarde des pays comme par exemple l'Espagne, le Portugal, la Grèce, ils ont une forte récession. Il y a plus que 20% de chômage en Espagne.
Et l'Italie aussi, hein?
L'Italie aussi. Et puis ils ont des taux d'endettement extrêmement élevés pour certains. L'Italie est à presque 120% du PIB. La Grèce, ils approchent le 150% de la valeur du PIB. Il y a d'autres pays où c'est moins fort, comme l'Espagne, par exemple. Mais ces pays-là, où c'est moins fort, ils ont des problèmes économiques tellement importants que ça crée beaucoup de craintes. Puis le problème avec des pays comme la Grèce puis l'Italie, par exemple, c'est que non seulement ils ont une dette extrêmement importante, mais en plus, ils ont un gros déficit budgétaire, donc ils sont obligés d'emprunter chaque année des montants considérables. Et puis là, il y a des gens qui commence depuis un bon moment à se demander, bien, est-ce que je devrais leur prêter ces gens-là, parce que est-ce qu'ils vont me rembourser un jour?
Et je voyais qu'en Europe, parce que je disais dans un article de la presse ce matin, qu'en Europe, les dirigeants et les citoyens de ces pays-là semblent pas sentir l'urgence. Ça, c'est particulièrement inquiétant.
Oui, effectivement. Mais vous savez, dans certains cas, comme la Grèce, par exemple, c'est inévitable la faillite. Hein? Ouais. La Grèce n'est pas techniquement en faillite parce que ils continuent à payer des intérêts sur leurs dettes et tout, là, mais ils sont pas capables de le faire. Et pour le moment, c'est de l'argent qui leur est prêté, qui leur permet de faire leur paiement. Et puis, ça continuera pas comme ça tout le temps. Hein. Dans le cas de la Grèce particulièrement, la Grèce, vous savez, ils ont passé plus que la moitié des années depuis l'indépendance grecque de l'Empire ottoman, là, plus que la moitié des années en faillite. Donc, si on définit une faillite comme le fait de pas être capable de faire des paiements qu'on s'était engagé à faire. Et puis, ils vont juste retourner dans ce pattern tout à fait normal. Ce qui est plus inquiétant, par contre, c'est que des pays comme l'Italie et l'Espagne soient rendus peut-être aussi à ça. Et si des pays comme l'Italie et l'Espagne suivent la Grèce, ben là, c'est extrêmement dangereux parce que, par exemple, le gros de la dette italienne, elle est détenue par des banques détenues à l'extérieur, elle est détenue par des banques françaises. Puis donc, si l'Italie cesse de faire ses paiements, ben là, les banques françaises font faillite. Et puis, si les banques françaises font faillite, ben il y a une crise financière en France. Alors, c'est ce qu'on appelle une contagion. Et cette contagion-là, elle n'est pas, disons, elle est envisageable. C'est pas impossible du tout.
Là, M. Belzile, vous parliez d'entrée de jeu que si on prend les pays comme la Grèce ou l'Espagne, sont pris dans la zone euro, non pas nécessairement. Est-ce qu'on peut utiliser ce mais dans le fond, qui n'ont pas de liberté, de marge de manœuvre, d'agir comme bon les centres parce qu'ils sont, ils doivent passer par l'Union européenne? C'est un peu ça là, qu'il faut comprendre? Ou?
OK. Le problème, c'est que dans le passé, quand la Grèce avait un problème comme ils ont actuellement, là, et qu'ils avaient emprunté dans leur monnaie nationale en drachme, ben ils pouvaient se débarrasser de leur dette indirectement en laissant leur monnaie se déprécier, en laissant leur monnaie tomber. Et puis si leur monnaie perdait la moitié de sa valeur, ben ça stimulait leurs exportations parce que les produits grecs coûtaient moins cher. Donc ça augmentait l'activité économique chez eux, ça augmentait les recettes du gouvernement. Puis en plus, comme ils remboursaient les étrangers en drachmes, ben les drachmes là, ben s'ils valaient juste la moitié de ce qu'ils valaient avant, c'est comme s'ils venaient de couper leur dette en deux.
Exact, c'est vrai. C'est une stratégie utilisée fréquemment aussi dans le passé. Là.
Oui, ben c'est pour ça aussi que les gens voulaient pas prêter à la Grèce, au gouvernement grec,
exact,
à moins d'avoir des taux d'intérêt très élevés. Mais maintenant, quand ils ont joint l'Union européenne, mais les gens se disaient, waouh, c'est plus dangereux de prêter à la Grèce, parce que premièrement, ils pourront plus laisser déprécier leur monnaie, Donc, le danger là, que je perde de l'argent en leur prêtant en drachme, puis qu'ils me remboursent avec des drachmes qui ne veulent plus rien, bien, c'est disparu. Puis en plus, les gens se disaient, ouais, puis l'Union européenne ne les laissera jamais faire faillite, c'est impossible. Alors ça, ça a fait que les taux d'intérêt que le gouvernement grec payait sont tombés au même niveau à peu près que ce que le gouvernement allemand payait. Et ça, ça a été le signal pour les Grecs et pour d'autres aussi, les Espagnols et d'autres, d'une orgie de dépenses puis d'endettement, parce qu'ils se sont dit, waouh, on peut s'endetter parce que c'est pas grave, on paye pas beaucoup d'intérêt. Et puis là, ben ça les rattrape maintenant. Il a fallu une grosse récession qui met en danger des banques, qui met en danger des institutions financières, qui crée du chômage, pour que là, on soit plus capable de rien faire. Parce que il n'y a plus de politique monétaire en Grèce, il n'y a plus de politique monétaire grecque. Ils sont pas capables de laisser tomber leur monnaie. Et puis, le gouvernement grec, il peut pas dire qu'il augmente son déficit pour stimuler l'économie. Parce que là, les gens ne voudront même plus prêter au gouvernement grec. C'est fini, là, hein. Mm-hmm. S'ils augmentent leur déficit en plus. Fait qu'il faut qu'ils resserrent les cordons de la bourse. En resserrant les cordons de la bourse dans un système où le régime de change bouge pas, là, où le taux de change peut pas bouger. Mais ça, c'est un gros, gros impact sur l'économie dans ce temps-là.
Si on regarde ce qui se passe du côté des Américains, moi, quand je vois un déficit annuel de 1000 milliards de dollars aux États-Unis, je me dis...
C'est 1600 cette année.
1600?
Oui.
Bon, les nouvelles sont bonnes. Oui. Non, mais je me dis, comment ils vont faire pour s'en sortir un jour? Est-ce que c'est envisageable même?
Oui, ben écoutez, vous savez, en 1994, on n'était pas dans une situation aussi pire que celle des États-Unis, mais pas loin. La dette fédérale, c'était 72% du PIB au Canada. Ça, ça comprend même pas les dettes des provinces, là. Mm-hmm. Et puis, aux États-Unis, ils sont même pas rendus à ça, là. Donc, on était encore plus élevés que ça. Okay. Et puis, il y a eu la crise du peso mexicain en 94. Et puis, il y a eu un effet de contagion. Les gens qui avaient prêté à la Grèce, puis ils avaient vraiment peur de pas se faire rembourser. Ils ont regardé dans leur portefeuille de titres, puis ils se sont rendus compte, waouh, j'ai aussi des titres au Canada. Puis le gouvernement canadien, là, entre nous, ça ressemble au gouvernement mexicain. Là, c'est pas vraiment sérieux, cette affaire-là. Et puis les gens ont commencé à retirer leur argent du Canada. Et puis là, pour que le gouvernement soit capable de vendre des titres, pour être capable de financer son déficit, ben, il fallait qu'il paye beaucoup, beaucoup plus cher.
Mais M. Belzile...
On a eu une crise chez nous, là. Ouais. On a une crise de très majeure chez nous.
Mais le problème, c'est qu'on influence moins le reste du monde que les États-Unis. Par contre, le Canada ou le Mexique, là, on est un petit joueur par rapport aux Américains.
Ah, tout à fait, vous avez raison, mais je voulais juste vous expliquer pourquoi c'est possible de régler ça. Ben là, au Canada, les gens ont eu vraiment, vraiment peur, puis le public a suivi, le public a demandé au gouvernement, waouh, il faut régler ce problème-là. Et puis, en 4 ans, le gouvernement chrétien, avec Paul Martin aux finances, il est passé de 42 milliards de déficit à une quinzaine de milliards de surplus. Ça, c'est un swing de, mon Dieu, pas loin de 60 milliards de dollars en 4 ans. 60 milliards en dollars d'aujourd'hui, là, c'est comme si on passait d'un déficit de... 75 milliards, un surplus de 25 milliards à peu près.
On peut penser que ça serait applicable éventuellement aux États-Unis, aux Américains?
Tout à fait. C'est juste une question de... Ils n'ont pas assez peur encore. C'est pas compliqué.
Ça leur prend quoi, M. Belzile?
Ben, c'est un peu comme nous autres. Il a fallu qu'on accumule bien de la dette au fédéral. Puis il a fallu qu'on ait une grosse peur que les taux d'intérêt montent chez nous à cause du Mexique. Un peu comme l'Italie est en danger à cause de la Grèce actuellement. Mmh. Là, il a fallu qu'il y ait ça pour réveiller le monde. Puis pour le moment... C'est évident qu'ils ne sont pas encore réveillés aux États-Unis. Pour le moment, c'est un jeu qui se joue entre les démocrates et les républicains. Oui, on veut tous baisser le déficit puis régler le problème.
Mais pas de la même manière.
Ouais. Mais le jour où... comment je dirais? Quand tu as vraiment, vraiment peur, là, ça focus tes idées. OK, tu règles le problème. Moi, je suis pas vraiment inquiet dans ce sens-là. Dans le sens où les Américains, je suis certain qu'ils vont le régler le problème, mais il faut qu'il y ait plus peur qu'actuellement. Puis actuellement, il y a quelque chose qui les aide, c'est que comme ça va tellement mal en Europe, les gens à l'échelle mondiale veulent plus placer leur argent en Europe. Alors, où est-ce qu'ils placent leur argent à la place? Ben aux États-Unis. Et puis c'est paradoxal parce que les gens achètent plus facilement actuellement des obligations du gouvernement fédéral américain à cause de ce qui arrive en Grèce. C'est que ça masque un peu le problème aux États-Unis, en fait.
De quelle façon il devrait fonctionner aux États-Unis? Est-ce que c'est la manière républicaine ou démocrate? C'est-à-dire, est-ce qu'on coupe dans les services ou encore on hausse les impôts? Ou les deux, j'imagine, le mix des deux serait l'idéal, je présume, pour réussir le plus vite possible?
Ben politiquement, ça serait sans doute un mix des deux que ça prendrait, mais quand on regarde le pourcentage de l'économie du PIB que le gouvernement va chercher en taxes et en impôts, là, historiquement, là, c'est 18% aux États-Unis.
Ouais.
Et puis, les dépenses publiques actuellement aux États-Unis fédérales, c'est 25% du PIB. Alors, il y a eu un gonflement des dépenses. En fait, le déficit, il est beaucoup, beaucoup plus dû à un gonflement des dépenses qu'autre chose. Maintenant, les recettes du gouvernement ont baissé à quelque chose comme 15% aux États-Unis, mais ça, c'est probablement dû à la récession avant tout, parce qu'un chômeur, ça ne paye pas beaucoup d'impôts. Hein, Et quand il y a beaucoup de chômage, et puis donc, à mon avis, si vous me demandez mon avis à moi, on devrait couper beaucoup, beaucoup plus dans les dépenses. C'est les dépenses qui ont explosé aux États-Unis.
Oui.
Le gouvernement américain, il n'est pas aussi pire que le nôtre, là, mais c'est quand même un gouvernement qui est vraiment obèse et tentaculaire. Hein.
Monsieur Belzile, vous parliez tout à l'heure que justement les difficultés en Europe, ben ça amène les gens à vouloir investir, à aller retourner comme le fameux refuge américain pour aller chercher un peu d'assurance comme au cours des dernières années. Mais les difficultés en Europe sont pas provoquées un peu justement par le fait que les Américains aiment bien ça gérer les affaires chez eux puis sont un peu plus protectionnistes depuis les dernières années?
Écoutez, on a eu une grande, grande peur quand la récession a commencé, que tout le monde allait devenir un peu plus protectionniste, puis à cause de ça, le commerce mondial allait chuter, puis ça allait empirer la récession. C'est ce qui est arrivé au début des années 30.
Oui.
Mais ça s'est pas vraiment avéré. Le commerce a chuté à cause de la récession, mais c'est pas vraiment parce que tout le monde s'est mis à mettre des grosses barrières au commerce. Alors, les démocrates ont une tendance peut-être plus protectionniste que que les républicains, ça y a pas de doute là, mais ça s'est plutôt à mon avis manifesté dans le fait qu'il y a des accords de libre-échange que les États-Unis négocient depuis quelques années et que le Congrès refusait de passer. C'est pas tellement qu'on réduit le commerce que on l'empêche d'augmenter, si on veut, autant que. Et ça joue un petit peu, mais c'est pas le facteur important. En Europe là, le facteur important là, c'est un endettement monstre. Ça fait peur aux gens qui prêtent de l'argent. Les gouvernants ont des déficits gigantesques. Puis les gens se disent, ben, est-ce que je vais prêter à quelqu'un qui non seulement a une dette importante, mais en plus, est même pas capable de régler de gérer ses finances comme du monde.
Il y en a qui vont s'impatienter. Il y en a qui vont s'impatienter au sein de l'Union européenne. Je pense aux Allemands qui sont peut-être écœurés de prêter de l'argent à tout le monde, alors qu'eux aussi, c'est pas la joie aussi côté économie, il faut qu'ils fassent attention à leurs finances également. Là.
Ben, puis les autres, ils sont exposés aussi beaucoup parce que les banques allemandes ont prêté beaucoup à des... entre autres à la Grèce, à l'Italie et autres. Mais vous savez, à mon avis, l'euro n'existera pas dans sa forme actuelle d'ici à 2 ans.
Vous craignez peut-être... est-ce que vous craignez à l'éclatement de l'Union européenne ou juste côté de la devise?
Non, l'Union européenne, ça me fait un petit peu moins peur. Il y a une grande intégration des économies maintenant.
Ouais.
Mais la devise, oui. La devise, c'était une mauvaise idée en partant. Et puis, là, on le voit. Et puis, ils pourront pas garder à terme la Grèce. En fait, c'est pas compliqué. Le jour où les Grecs vont en avoir vraiment ras-le-bol des mesures d'austérité qui, dans le contexte actuel, là, crée beaucoup, beaucoup de chômage,
ouais.
Ben, le gouvernement n'aura pas le choix, puis il va arrêter de couper dans ses dépenses. Puis quand il va arrêter de couper dans ses dépenses, ben les autres ne voudront pas lui prêter de l'argent pour le faire survivre. Et puis, c'est pas compliqué, ils vont tomber en faillite. À mon avis, c'est inévitable. Et puis, présentement, ce qu'on est en train de se demander, c'est est-ce que c'est inévitable aussi pour l'Italie?
Mm-hmm. En terminant, M. Belzile, quand je regarde ça, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, que ce soit partout dans le monde, quand je regarde ça, je pense aux générations futures. C'est elles qui vont avoir à payer pour ça. C'est quand même assez alarmant de voir la situation financière et l'endettement de plusieurs pays.
Oui, oui, tout à fait. Puis nous, on n'a pas vraiment à se péter les bretelles. Hein. Au Canada, le gouvernement fédéral est dans les 40-quelques%, le taux d'endettement.
Mm-hmm.
Mais si on additionne les provinces, parce qu'on est une fédération après tout, hein, ce qui n'est pas le cas de la France puis de l'Italie, là, mais les provinces sont dans les 40-quelques% aussi. Hein. Et puis là, on arrive dans les 80-quelques%, sinon 90%. Ça c'est selon la méthode utilisée dans le tableau qu'on discutait tout à l'heure.
Mm-hmm.
Donc, on n'est pas beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Puis quand on regarde la dette du Québec, pour aller jeter un coup d'œil sur le compteur de la dette, sur le site de l'IEDN, on est rendu à quelque chose comme 236 milliards actuellement, juste pour le gouvernement du Québec là, de dette. Et ça augmente, écoutez, on a rajouté, je pense, 11 milliards de dollars de dette l'année passée, juste au Québec.
Ben,
alors oui, il faut prendre, je veux dire, on a perdu le contour de nos finances publiques.
Ben,
et
c'est
puis
ça.
C'est extrêmement inquiétant pour les générations futures.
Ben c'est ça, ici comme ailleurs, en fait, là.
Ah oui, tout à fait. On n'a pas à se dire, waouh, nous autres, on est bons, puis eux autres, ils sont vraiment à poche, mais c'est pas ça, là. Nous autres, ouais. on est sur le même chemin, là.
Ben, j'écoutais des analystes américains aussi qui riaient un peu de la Grèce en disant, bon, ils ont environ 40 000 $ par tête de pipe de dette, puis... Puis dans le fond, c'est un show d'humour, je pense que c'était le tout des shows avec monsieur Stewart, avec John Stewart, puis qui nous disait « Oh, wait a second, attendez un instant, on est à plus de 45 000, nous, les Américains, ici, mais c'est parce qu'on a une marge de manœuvre beaucoup plus intéressante. » Mais qu'est-ce qui se produit, monsieur Belzile, lorsqu'un pays tombe en faillite? Qu'est-ce qui se passe? On arrête, tout arrête dans le day-to-day, qu'est-ce qui peut se produire?
Ben c'est assez différent d'une compagnie. Hein. Quand une compagnie fait faillite, on se partage ses actifs, puis ça vient de s'éteindre. Mmh. Quand un pays fait faillite, c'est ce qu'on appelle une dette souveraine. On peut pas se partager ses actifs. Hein. Les gens n'iront pas saisir le Parthénon en Grèce.
Non,
là,
c'est
ou,
ça.
Ou des, même s'il y a des gens qui aimeraient saisir une coupe d'île grecque, peut-être. Ça serait...
Oui.
mais on peut pas faire ça. Alors, tout simplement, le gouverneur ne remplit pas ses obligations. Donc, sa parole qu'il avait donnée de rembourser des gens qui lui avaient prêté de l'argent, ben il dit, ben non, ça vous serait pas remboursé. Mmh. Et puis, ben le gouvernement, pendant des années, est incapable d'emprunter dans les marchés internationaux après ça. Mmh. C'est le gros problème. C'est arrivé à l'Argentine. Ça arrive souvent. Il y a, je vous dirais, en moyenne, là, sur une durée de 100 ans, il doit y avoir certainement au moins deux pays qui tombent en faillite par année. À l'échelle mondiale.
Okay.
Ça arrive par paquet d'habitude, par exemple. Là.
Par contre, l'Italie, la Grèce, c'est quand même des pays importants. C'est pas, mettons, le Zimbabwe 2.0, là.
Oui, mais en même temps, vous savez, l'Irlande,
l'Argentine aussi.
L'Argentine aussi.
Oui, mais si on regarde l'Irlande, l'Espagne et puis le Portugal, ensemble, c'est plus petit que l'Italie. La Grèce, ça doit être quelque chose comme 2 ou 3% du PIB de l'Union européenne seulement. Mmh. Mais si l'Italie fait faillite, ça c'est la 7e économie mondiale. Ça c'est beaucoup beaucoup plus grave. L'Argentine c'est pas un gros pays non plus. Jusqu'à date là, les gros pays, les pays très importants, ont pas été touchés par des faillites. Mais si ça arrivait, ben là, ça serait beaucoup plus grave parce que ça pourrait entraîner comme une espèce d'effet de domino. Okay. Les pays qui sont où les banques sont extrêmement exposées là pourraient se ramasser des problèmes majeurs.
Ça doit pas être agréable pour la fierté nationale, hein? Quand un pays tombe en faillite, veut ou veut pas, là, ça doit pas monter le moral d'une collectivité, là.
Non, effectivement, mais dans le cas de la Grèce,
c'est humiliant.
C'est quelque chose qui est plutôt habituel parce que depuis leur indépendance au 19e siècle, plus que la moitié des années ont été passées en faillite. Ouais. Ils ont même été en faillite pendant plusieurs années, pas en faillite, mais en tutelle de l'Angleterre, puis en tutelle de la France pendant quelques années aussi. En fait, la Société des Nations les avait placés en tutelle, c'est l'ancêtre, si on veut, des Nations Unies. Là. Ouais. Ils avaient dit un pays occidental. Vous allez gérer leurs finances. Puis en gros, c'est ce qui est en train de se passer, hein, parce que les inspecteurs des finances européens, on pourrait penser allemands, entre autres, là, sont en train de prendre le contrôle du ministère du Revenu là-bas, puis du ministère des Finances, parce que on sait qu'il y a de la fraude, il y a des fausses écritures, etc.
Bon, on comprend que la Grèce est une exception là quand même, mais j'imagine qu'eux sont habitués, ils sont un peu humiliés maintenant.
Ben, ils doivent pas trouver ça drôle quand même.
Non, là, j'imagine.
Mais surtout, ils voient aussi une sorte d'avenir rose s'en disparaître parce que eux autres, ils prenaient leur retraite à 57 ans, je pense, je me trompe pas, les Grecs.
Okay.
Et ils étaient habitués. Le nombre de fonctionnaires de l'État est gigantesque. En fait, l'État sait même pas combien il y a de fonctionnaires au total, là.
Okay.
Mais on pense quelque chose comme pas loin d'un quart de la population active et fonctionnaires de l'État. Ces gens-là étaient payés 14 mois pour 12 mois de travail. Souvent les fonctionnaires avaient un chèque de fonctionnaire à chaque deux semaines, mais ils faisaient rien, puis ils occupaient un autre emploi dans le secteur privé à côté de ça. Puis donc tout ça c'est en train de disparaître parce qu'on est en train de faire le ménage là-bas sous la pression. Hein, c'est les autres Européens qui sont en train de dire à la Grèce, vous faites le ménage ou bien.
Quand un pays tombe en faillite, là, puis qu'il n'y a plus de capacité d'emprunt, c'est difficile, j'imagine, de repartir l'économie d'un pays, ou c'est-tu comme un particulier? On faisait la comparaison tantôt, est-ce qu'il peut repartir sur de bonnes bases, puis,
c'est souvent ce que ça prend. Quand on est rendu au point où la Grèce est rendue, là, c'est la seule échappatoire. Vous laissez votre monnaie dégringoler. Et puis quand votre monnaie dégringole, ben ça rend vos produits extrêmement compétitifs Et puis là, vous vous mettez à exporter plus, puis c'est les exportations qui vous sortent du trou. C'est ce qui est arrivé à l'Argentine. L'Argentine, si vous vous souvenez, il y a quelques années, avait connu une crise majeure, hein, puis il y avait des manifestations violentes dans les rues et tout, là. Ouais. Et puis c'est parce qu'il était dans un régime où le taux de change était fixe avec les États-Unis. Et puis le jour où ça a été tellement... En fait, c'est la même chose que la Grèce qui s'est passée là-bas, hein. Un gros endettement, et puis aussi un déficit budgétaire gigantesque. Et puis les gens voulaient plus prêter à l'Argentine. Et là, le FMI est arrivé et a dit, ben nous autres, on va vous prêter de l'argent. Si personne ne veut vous prêter. Mais en échange, vous allez couper les dépenses du gouvernement. Mm-hmm. Mais si vous coupez les dépenses du gouvernement dans une telle situation, vous augmentez le chômage encore plus. Et puis là, c'est arrivé au point où le gouvernement n'a pas eu le choix. Il a laissé tomber le taux de change fixe avec les États-Unis. Et puis leur monnaie, le peso argentin, a perdu à peu près 40 ou 50 de sa valeur. Mm-hmm. Et puis là, ben ça les a rendus compétitifs. Puis ils sont sortis, puis ont une grosse croissance. Puis le chômage est moins grave. Il y a plein de gens qui se sont fait rouler là-dedans, par exemple. Tous ceux qui avaient prêté à la Grèce, pas la Grèce, mais à l'Argentine, mm-hmm. ben ils ont perdu leurs économies là-dedans. Puis ça comprend beaucoup aussi d'Argentins dans ce cas-là, qui ont été roulés par le gouvernement, mais les étrangers aussi. Et puis avant que les étrangers se mettent à prêter des montants considérables à l'Argentine, là, je pense qu'ils vont en couler de l'eau sous les ponts.
On prend du temps. Merci, M. Belzile.
Ben, je vous en prie.
Merci. Germain Belzile, qui est directeur de recherche à l'Institut économique de Montréal. C'était bien.